Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse de ce vendredi, deux sujets. Le premier, c'est la situation sécuritaire au Mali avec en toile de fond les attaques qui se poursuivent comme celles qui a coûté la vie à un casse-bleu le 7 août dernier entre Aguiloc et Anéfis, suivie d'une autre, une autre attaque qui, heureusement, n'a fait que des dégâts matériels. Il y a également eu l'attaque de Ténégou qui a fait 5 morts parmi les femmes. Sans oublier la reprise des combats entre les groupes armés Akidal et dont on ne connaît toujours pas le bilan. Le second sujet, c'est une annonce, celle faite par le gouvernement mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres convoquant le collège électoral le 20 novembre prochain pour l'élection des élus communaux, des conseils communaux. De ces deux sujets qui n'ont apparemment rien de simple, nous allons débattre avec 4 journalistes au Pôle Ben. Il n'est pas là pour l'instant, il est journaliste indépendant, il sera donc là d'un moment à l'autre. Dans ce studio sont présents Ami Bessissé, qui est le directeur de publication du Figaro du Mali. Monsieur Cissé, bonsoir.
Bonsoir.
Youba Konaté également là, du Zénith Balé. Monsieur Konaté, bonsoir. Et Cheikh Amadou Diouara, il est journaliste indépendant. Monsieur Diouara, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
À toutes et à tous, bienvenue. Insécurité au Mali, il en a beaucoup été question dans les colonnes des journaux et sur les ondes des radios de la place. Rien de plus logique et c'est d'ailleurs le contraire qui aurait surpris avec la situation qui prévaut sur le terrain. Une fois de plus, les FAMA et l'aménagement ont été dans le collimateur des terroristes faisant croître le nombre des victimes. Que faut-il finalement inventer comme solution pour arrêter ces attaques? Parce que jusque-là, il semble qu'il n'en n'existe pas, il n'y a toujours pas de solution pour le moment. Je pose la question en premier lieu à vous, Ami Bessissé, vous qui êtes le directeur de publication du Figaro du Mali.
Merci, Monsieur Fomba. Bonsoir aux auditeurs. Je suis aussi au niveau de la radio RFM, il faut le préciser. D'abord, je m'incline sur la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés, que leur âme repose en paix. Cependant, je crois que le problème, il est réellement là, parce que quand il y a eu les récentes attaques de Nampala, les autorités tambour battant ont décrété des mesures, mais apparemment ces mesures ne sont pas en train de donner le fruit escompté. Et ce qui s'est passé à Ténégou, comme nous l'imaginons, l'armée malienne aujourd'hui a des sérieuses difficultés sur le plan mental et le plan psychologique. Aussi, il y a le problème du matériel. Les autorités l'ont dit, le président qui est le chef suprême des armées l'a dit solennellement, nous avons besoin d'avions. Ce n'est pas seulement l'avion, parce que le plan aujourd'hui à Ténégou, quand vous essayez de voir, Ténégou d'abord c'est le centre du Mali. On se demande comment se fait-il que, après tout ce qui s'est passé récemment, que des soldats puissent se faire surprendre aussi facilement et aussi banalement. Cela veut dire que les mesures qui ont été mises en place ne sont pas du tout fondées de la part des autorités, ou qu'il y a une discipline qui n'est pas du tout du côté des FAMA. Moi, je pense que c'est un problème sérieux qui n'a pas encore la solution, non seulement dans la conception, mais aussi sur le terrain. Le problème de coordination, je pense que ça existe. Voici ce que j'ai dit d'entrée.
Le problème d'insécurité est donc là. Youba Konaté, pour l'instant, pas de solution.
Merci M. Fomba de me permettre de donner mon avis par rapport à cette question de l'insécurité généralisée dans notre pays. Et moi, je pense que désormais, je pense que les gens sont en train de comprendre que le vrai problème dans la situation que nous vivons désormais, c'est véritablement la grande faiblesse de notre armée. Et je crois que les gens sont en train de le comprendre désormais, puisque si vous entendez les derniers commentaires qui ont été faits ces derniers jours, vous comprenez que les gens ne parlent même plus beaucoup de l'aménagement et de son mandat robuste. Les gens sont en train d'oublier l'aménagement. Il y a un problème, un vrai problème, et si vous suivez un peu mon regard, M. Fomba, depuis le début, c'est à cette logique-là, dans cette dynamique-là que moi je suis resté. Je veux, c'est-à-dire que c'est l'armée malienne qui est au cœur du problème. Il faut que l'on le comprenne. Et si vous permettez, je vais rappeler. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où à l'élection du président de la République, le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, de son élection à pratiquement, on a fait 2 ans, la situation était presque calme. la situation était presque calme. C'est-à-dire que la recrudescence de la violence que nous voyons aujourd'hui ne date que peut-être que de 12 mois. Voilà. Là, pendant presque 2 ans, la situation était calme. Donc c'est ce temps-là qu'on devrait mettre à profit de façon substantielle pour essayer de refonder et de réformer notre armée. Bien sûr, il y a eu des mesures. La loi de progression militaire et tout ce qui s'ensuit, des mesures temporaires, des tentatives de renforcement. Mais tout ça est soutenu par des pratiques, des vieilles pratiques qui n'ont aucunement changé. Tout le monde le sait. Et on continue de faire comme si de rien n'était. Et moi, je pense que désormais, les gens sont en train de comprendre que dans cette dynamique-là, on ne tiendra pas. Il va falloir que, d'abord, nous comprenions que nous sommes en guerre, véritablement en guerre, et que l'ennemi est coriace. C'est là. Au-delà de, comment dirais-je, de la mise en place, de la mise en, comment dirais-je, en application effective de l'accord pour la paix, et qui est récemment, comment dirais-je, qui prend désormais des coups avec la recrudescence de la violence entre des acteurs majeurs de cette situation. Au-delà de ça, c'est notre armée qui est au cœur du dispositif et il va falloir que vraiment les uns et les autres le comprennent et en premier lieu les autorités du pays pour que on refonde toute cette situation parce que autrement on ne tiendra pas.
L'insécurité qui va donc galopante, il va falloir quand même trouver une issue d'une manière ou d'une autre, cher Kamaru Diawara.
Bon, là-dessus, moi je pense que le gros problème dans cette situation, c'est les questions de moyens. Les questions de moyens, pas seulement militaires, parce que d'abord, nous avons un point qui est essentiel dans le traitement de ces questions d'insécurité asymétrique et surtout par rapport aux embuscades et autres. Et c'est que par le renseignement que nous pouvons efficacement pallier à ces moyens, à ces situations, parce que c'est le renseignement qui peut permettre de pouvoir anticiper sur des actions comme ça.
Cela a été décrié par vous, par beaucoup d'autres, depuis quand même un certain temps. Alors, il n'y a toujours pas d'évolution à ce niveau ?
Il n'y a pas d'évolution à ce niveau, je ne pense pas. Pas d'évolution concrète. Après, c'est vrai que c'est pas par un coup de baguette magique que ça arrive, mais il faut quand même savoir que c'est beaucoup plus aujourd'hui de renseignements que nous avons besoin, des renseignements efficaces qui puissent vraiment monitorer, suivre en permanence ce qui se passe pour pouvoir donner des feedbacks, pour permettre aux FAMA de pouvoir anticiper sur certaines attaques. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas seulement des avions, ce n'est pas seulement des blindés. La preuve est qu'aujourd'hui, vous voyez dans le Nord, il y a combien d'avions, il y a combien d'hélicos, il y a combien de moyens aériens avec Barkhane ou avec l'AMINUSMA. Quand vous êtes aujourd'hui à Gao ou vous êtes à Kidal, presque toutes les 10 minutes, il y a un avion ou il y a un hélico qui décolle. Il y a des drones dans le ciel, il y a tout ça. Mais je pense aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, qui est quand même essentiel, on ne nie pas les moyens militaires, il y a même des sérieux problèmes d'effectifs et tout ça, parce que le territoire est immense, il y a plusieurs fronts qui s'ouvrent, on a plus besoin, mais je pense surtout et plus que c'est dans le renseignement que nous pouvons beaucoup plus pouvoir anticiper sur ces situations-là.
Des soldats maliens qui sont tombés encore à Ténénkou, 5 morts on dit, qui se sont d'ailleurs noyés, on ne sait pas précisément dans quelles circonstances. Il y a eu aussi cette attaque de la maison de jeunes de Gossi, c'était lors d'un concert, un individu armé qui s'y est infiltré avant de tuer une personne et de faire 4 blessés. Alors finalement, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que la violence est en train de s'exprimer sous toutes ses formes au Mali, Ami Bessissé?
Moi, je pense que cela n'est pas trop dit tout de suite, mais des confrères rappelaient le problème qui gangrène l'armée, nous le savons. Ça, c'est au niveau même de différentes infanteries, de différents corps de l'armée. Mais il y a le niveau hiérarchique, il y a surtout dans le commandement où les problèmes sont sérieux, nous le savons bien. Il y a cette coordination qui manque, il y a cette insubordination aussi.
Vous évoquez tous des problèmes. Est-ce qu'au sommet de l'État, on est conscient de l'existence de ces problèmes? Est-on en train de chercher une solution?
Vous savez, ces derniers temps, quand on entend même les militaires les militaires parler, on sent que ce n'est plus la grande miette, parce que de plus en plus les militaires s'expriment, que ça soit à travers les médias ou bien même dans en off, ils le disent, ça ne va pas réellement, parce que les politiques aujourd'hui ont tendance à mettre tout sur les hommes, sur le terrain. Nous l'avons vu avec le ministre Tchéman qui est là, dont certains contestent d'ailleurs la capacité à pouvoir mettre une certaine confiance au sein de ces troupes. Et tout de suite, Djoura l'a dit, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, quand vous prenez la MINUSMA, Yubo aussi l'a évoqué, la MINUSMA n'est pas là pour sauver quand même l'armée du Mali. Ça, ce n'est quand même pas dans son mandat. Si les militaires tombent, c'est que c'est encore grave. La MINUSMA, bien qu'elle puisse le faire, elle ne le fera pas, parce que les renseignements dont il a parlé, on ne peut pas comprendre que Barkhane et que la MINUSMA n'est pas tout ce qui se passe. L'armée aujourd'hui est plus dans la réaction que dans l'action, parce que nous avons vu à chaque fois que la sécurité d'État fait des résultats, c'est après malheureusement des crimes, après malheureusement des attaques, et cela est inquiétant. Il faut anticiper les choses, et je pense que nous ne sommes pas dans cette dynamique. On a plus tendance à réagir qu'à agir, et là c'est malheureusement, comment on appelle ça, déplorable.
Monsieur Konaté, les attaques se multiplient, elles ne se ressemblent pas toutes celles de Gossi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, la situation s'est pourrie davantage. Quand vous prenez déjà, par exemple, le 2012-2013, quand on terminait la transition, les attaques se concentraient exclusivement au nord du pays. Et tout le monde a vu que depuis un an, le centre est pratiquement pourri. Donc, la situation est en train de dégénérer. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est très, très dangereux. Le centre aujourd'hui est un peu plus compliqué que le nord, véritablement. Donc, ça nous interpelle. Si vous permettez, M. Douara a parlé des questions de renseignement. C'est vrai, il n'y a pas de guerre sans renseignement. Mais moi, je ne pense pas que les renseignements soient prioritaires ici. Parce qu'il y a des trucs élémentaires qu'on ne peut pas comprendre. Même vous n'avez pas besoin d'être spécialiste en militaire pour comprendre certaines situations. Parce que comment on peut continuer à faire vadrouiller sur nos routes des convois de 5-4 véhicules dans des zones extrêmement dangereuses? Moi, je ne comprends pas ce qui pose le problème, l'autre problème de management même de l'armée. C'est-à-dire qu'au sommet de l'État aujourd'hui, il va falloir que les gens comprennent que nous sommes véritablement en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une situation de guerre. Et on ne sent nulle part. On ne sent nulle part. Nous continuons à vaquer normalement à nos occupations comme si de rien n'était. Il va falloir à un moment donné qu'on sonne la sonnette d'alarme, que les gens comprennent que nous sommes en guerre. Et que l'on adopte des postures de guerre. Parce qu'on ne le sent pas au niveau de l'État, on ne le sent pas au niveau du gouvernement. Oui, bien sûr, on va vous parler des mesures, ou du moins des mesurettes de trucs. Non, il va falloir changer de cap. Que déjà, nous mettons dans une dynamique de guerre. Notre pays est en guerre et c'est très grave. Et de plus en plus, vous comprenez, vous voyez que nous perdons presque chaque semaine des hommes. C'est intolérable. Il va falloir que les gens prennent les mesures pour indiquer la situation, que ça s'améliore.
Cheikh Amadou Diouara.
Évidemment, je pense que moi j'ai parlé de renseignements comme prioritaires. Mais je pense que j'ai évoqué aussi la question d'effectifs, j'ai évoqué aussi la question de moyens. Regardez un pays comme le Rwanda, ou qui ne fait pas plus que le cercle dans son groupe, peut-être moins d'un dixième du Mali, qui a plus de militaires, de plus de forces d'ordre et de sécurité que le Mali. Il y a ce problème qui se pose au niveau des effectifs, au niveau des moyens, de la logistique et tout. Mais aujourd'hui, il faut savoir, moi je veux vous le dire, hein, vous pouvez le vérifier, les débâcles légendaires de l'armée, par exemple en mai 2014 à Kidal, à la suite du passage du Premier ministre Mara à Kidal, et ceux qui s'en sont suivis, vérifiez. C'est au niveau des renseignements que le bas a blessé, et c'est au niveau des renseignements que la faille est venue. Donc, je pense qu'on ne gagne aucune guerre sans renseignement, ça c'est clair. Et aujourd'hui, le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous n'avons pas des capacités matérielles, nous n'avons pas les capacités en termes de ressources humaines et autres, mais quand nous avons des renseignements efficaces, ça peut nous permettre, même là où nous n'avons pas une présence significative, de pouvoir déjouer ou anticiper sur certaines situations. Maintenant, moi, je pense qu'il y a aussi un sérieux problème qui est là. Je pense que le président de la République doit savoir vraiment qu'on ne choisit pas un ministre de la Défense n'importe comment, permettez-moi l'expression. Moi, je pense, franchement parlant, que le ministre de la Défense n'a pas les compétences de diriger une armée d'un pays en guerre.
Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement?
Il n'a aucun background, pas un militaire. Nous avons connu les meilleurs ministres de la défense que nous avons connus étaient des civils. John Kounda Traoré a été ministre de la défense et je pense que ça a été légendaire dans l'armée. Tout le monde a reconnu qu'il a été un des meilleurs. Mohamed Salia Sogona a été un des meilleurs ministres de la défense. C'est pas une question de militaire, c'est une question d'homme capable de résoudre le problème.
Je suis désolé,
le ministre actuel, il n'a aucun background, il n'a aucune expérience pour gérer cette situation.
On va revenir à vous dans un instant. Nous allons observer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous allons donc continuer avec ce sujet, le premier sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de la situation sécuritaire au Mali. Nous avons évoqué les attaques par-ci, par-là. Maintenant, on va tout de même dire un petit mot de cette fausse alerte à Bamako. C'était le mercredi. Alors, même si l'alerte était heureusement fausse, il y a quand même un petit point d'interrogation, ce drapeau noir sur le toit de l'hôtel Royal. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire, ami Bessé?
Ben, c'est difficile de vous dire ce que ça peut vouloir dire. C'est que dans un pays où la situation sociale est difficile, lorsque les gens sont poussés à l'extrême, ils s'adonnent à tout. Vous l'avez dit, c'est une fausse alerte. La réalité aurait pu être pire si vraiment cette personne avait l'intention de faire autre chose. C'est vrai, les citoyens aujourd'hui sont perdus. Ils n'ont plus de perspective et c'est ce qui d'ailleurs ouvre les portes et facilite l'endoctrinement de milliers de Maliens aujourd'hui qui sont de plus en plus exposés à ce terrorisme que les autorités veulent combattre. Moi, je pense que la raison de cette personne, il paraît qu'on l'a expropriée, mais c'est pas trop, je ne suis pas allé trop à l'information. Il a été exproprié selon les quelques petits renseignements que j'ai eus.
Ce n'est pas une simple rumeur, non?
Non, mais j'ai dit, selon les quelques renseignements que j'ai eus, peut-être que vous êtes bien placé pour savoir tout cela. Moi, je ne confirme rien du tout. De toutes les façons, lorsque vous n'avez pas de perspective, la justice, c'est un problème. Là où vous vous plaignez aujourd'hui, ça n'aboutit pas. Donc, le meilleur moyen pour les gens, c'est de se faire parler d'eux. Et je crois qu'il a réussi son coup. Les gens parlent d'elle aujourd'hui. Mais peut-être que ça va... comment on appelle ça, changer et la surdité au niveau gouvernemental, au niveau des autorités qui de plus en plus poussent les citoyens à bout.
Oui, c'est l'expression véritablement d'un malaise, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un acte banal comme ça, et vous voyez toute la mesure qui a été prise, c'est vrai, histoire de prendre les précautions, mais ça en dit long sur, n'est-ce pas, l'ambiance dans notre pays, et surtout dans la capitale. Parce que les gens, il y a un problème, il faut qu'on en soit conscient. Et que les gens comprennent que nous avons véritablement une situation de guerre. Il faut le comprendre et se mettre dans cette situation, dans la peau. Parce que les gens sont en train de... Surtout les premiers responsables, on fait comme si de rien n'était. On vit tranquillement. Non, il va falloir qu'on adopte une posture de guerre. Nous sommes en guerre. C'est tout simplement ça.
Cheikh Kamalou Diawara.
Bon, moi je pense que le cas spécifique de l'Hôtel Royal est certes un cas isolé. Mais il faut qu'on sache que c'est des situations de frustration pareilles, de frustration, parce que il n'y a pas plus proie facile à la radicalisation qu'une personne frustrée. Et je pense que c'est comme ça aussi que la radicalisation a gagné du terrain de tous les temps dans ce pays. Et c'est dans ça qu'on est en train de tomber. Il faut que nous sachions aussi que malheureusement, les Maliens ne vivent pas à chance égale. Les Maliens, les problèmes ne sont pas gérés à chance égale. Donc, des personnes qui se sentent frustrées se radicalisent et peuvent se retrouver dans toute autre forme de fondamentalisme. Et c'est le cas de cette personne qui s'est vue, à ce qu'on sache, expropriée effectivement de son bien et qui a hissé un drapeau sur lequel il est écrit « Djihad pour le droit ». Alors, a-t-elle été expropriée de son droit qu'elle revendique?
Nous allons à présent nous intéresser à Kidal. Les nouvelles en provenance de Kidal ne sont toujours pas bonnes entre les groupes armés. Les combats ont repris cette semaine. Alors, on dit quand même que c'est vendredi, pas plus tard donc qu'hier, il y a eu une rencontre entre les représentants du ICIA et les Gatia ici à Bamako. Alors, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle a donné à MIBCC?
Je suis étonné et surpris de savoir que pendant que ils sont en train de se tuer à Kidal-Laba, que les discussions s'engagent ici à Bamako, moi je pense qu'ils se moquent encore de la République. J'ai une fois dit sur ce même plateau que les Imgad et les Ifogas sont deux collines qui difficilement vont se rencontrer ou bien qui ne se rencontreront jamais. Et je crois que de plus en plus, malheureusement, le temps me donne raison.
Mais il faut qu'ils se rencontrent, puisque après tout, ils sont sur le même territoire, sur le même terroir.
Bien sûr, moi, je pense que tout a été mis en faveur de ces groupes pour que la paix puisse faire son chemin. Vous les avez vus, ils ont signé eux-mêmes des ententes, des accords qui sortent même du cadre de l'accord de paix. Mais tout cela n'a rien changé. De plus en plus, c'est grave aujourd'hui. Ces derniers temps, ce qui se passe à Kidal, c'est grave parce que c'est eux qui sont en train de s'entretuer. Ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas Yad, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes. Et nous savons pourquoi. C'est juste une question de leadership, c'est une question de commandement parce que entre la CMA et la plateforme, ce n'est pas les mêmes revendications. Il y a bien l'un qui n'est pas clair et nous le savons de plus en plus. Ce ne sont que les gens de la CMA qui veulent coûte que coûte s'imposer et faire de Kidal la région peut-être qui leur a été promise.
Yuba Konaté.
Oui, c'est-à-dire que la situation à Kidal, c'est vraiment problématique et vous avez vu ce que le gouvernement a donné comme communiqué, même si c'était un peu bizarre, parce que nous sommes en République du Mali quand même et on parle de groupes armés maliens qui sont en train de porter un coup encore plus dur au processus de paix. Parce que la situation sur le terrain est tellement compliquée qu'on n'a pas besoin d'un affrontement entre ces deux protagonistes-là. Mais peut-être qu'il va falloir à un certain moment donné aussi revenir sur ce qui se passe sur le terrain à Kidal. Puisqu'entre-temps aussi, M. Fomba, la rencontre entre la CMA et la plateforme et le Gatia, j'ai cru comprendre que c'était aujourd'hui. Mais je connais un certain nombre de journalistes qui ont cherché à comprendre ou à chercher à savoir où se tenait la rencontre. C'était peine perdue. Alors, ils ont fait un certain nombre de tours dans les hôtels et dans les trucs. C'était, personne n'a su où se tenait la rencontre. Donc, c'est sûr que c'est à ce niveau un top secret. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette rencontre, ces affrontements entre la CMA et le Gatia, vraiment, le processus n'a pas besoin de ça. Il faudrait que les gens le comprennent et que les uns et les autres fassent des concessions. C'est très important qu'ils fassent des concessions. Parce que dans cette situation de trouble, tout est troublé. Si on doit ajouter encore ces nouveaux dérapages, on ne s'en sortira pas. Donc il va falloir qu'à un certain moment donné, puisque la revendication fondamentale qui est à la base de ces affrontements, tout le monde la connaît, c'est que le Gatia demande à être impliqué dans la gestion de Kidal. Bon, en principe, ce n'est pas trop compliqué.
Ils ont signé un document.
Il va falloir qu'à un moment donné, qu'ils trouvent des compromis, que les uns et les autres acceptent de faire des concessions pour qu'on n'en arrive pas à des situations de ce genre. Parce qu'il s'agit simplement de trouver des formules. Et puisque toute cette situation est intermédiaire entre-temps. Parce qu'il s'agit de la mise en place des autorités intérimaires en attendant qu'on procède à des élections. Parce qu'on ne peut pas continuer à partir des postulats historiques et dire non, non, non. Parce que tout le problème aussi, c'est ça. C'est un peu historique. La CMA composée fondamentalement des d'Ifogas c'est eux qui ont traditionnellement géré la région, c'est le pouvoir politique, c'est pour eux tout ça. Bon, s'il y a des changements qui sont en train d'intervenir et que un acteur qui n'a pas tout le temps été politique est en train aujourd'hui à travers les armes de s'imposer. Moi, je pense qu'il y a lieu de tenir compte de ça et surtout qu'entre eux-mêmes, ils avaient déjà signé des protocoles pour dire oui et reconnaître qu'il va falloir que tout le monde soit impliqué dans la gestion du pays. Il s'agit à ce niveau-là que les uns et les autres fassent des efforts pour que vraiment on en arrive à calmer la situation et que ce front-là soit tenu pour que vraiment on s'occupe. Parce qu'entre-temps, il faut rappeler que le 15 août, c'est ce qui, en principe, c'est les patrouilles où le mix là devait commencer à partir du 15 août. Et l'aménagement aussi avait promis le 15 août pour livrer les sites de cantonnement. Donc, si dans toute cette ambiance-là, on en arrive encore à une situation de et qui dégénère comme ça à Kidal, ce n'est vraiment pas bon pour le processus. Il va falloir, on l'a dit, le processus n'est pas parfait, mais c'est un bon cadre, ou du moins un cadre qui peut nous permettre d'avancer et de faire des trucs sur la question de la paix dans notre pays. Il va falloir que les gens reviennent à ces processus-là.
Cheikh Amadou Diouara, cette rencontre à Bamako dont les journalistes semblent en savoir même peu, est-ce qu'elle peut contribuer d'une façon ou d'une autre à apaiser la situation sur le terrain qu'il a?
Moi, je pense qu'on était là il y a 2-3 semaines, au lendemain de la signature de l'accord de Niamey. La question avait été posée et moi, j'avais dit que pour moi, ça, c'est vraiment des sous-chapitres de distraction sur l'accord. Pour moi, le seul accord qu'il y a, c'est l'accord du 20 juin 2015. Et après cet accord, moi, je pense que ce qui se passe à Kidal aujourd'hui, c'est comme des conflits interethniques qui se passent entre Bambara et Peul à Tenenku ou entre Soninke et Mor à Nioro, etc. Ce n'est pas vraiment un conflit véritable entre protagonistes de l'accord quand on essaye de le prendre dans une certaine rationalité de lecture de l'accord. Par contre, c'est clair que ça émane aussi des failles de l'accord parce que tout revient encore. Mais je pense que ce n'est pas seulement sur une question d'autorité intérimaire, c'est beaucoup plus et plus spécifiquement sur une question de gestion, pas de la ville de Kidal, mais de la région, parce qu'il y a tout un mouvement quand même transcommercial qui se passe dans cette région, où chacun veut avoir aussi sa part de regard dessus. Donc, il ne faut pas que ce problème se transporte à une place aussi importante qu'elle ne représente dans l'accord pour au point de pouvoir compromettre l'avancée ou la mise en œuvre.
Monsieur Douara, c'est vrai que, à mon avis, c'est un problème qui peut quand même avoir un impact, une incidence sur la mise en œuvre de l'accord.
Tout dépend de sur quel angle nous le voyons, sur quel angle, dans quel angle nous nous positionnons pour le regarder. Sinon, ce problème, quand on le voit, il n'est pas un problème qui se situe entre les différents protagonistes de l'accord par rapport aux différents points de désaccord qui nous ont amenés à ce conflit. Donc, c'est un autre problème spécifique à la gestion de Kidal, de la région de Kidal et des activités transcommerciales dans la région.
N'y a-t-il pas de risque que ça s'envenime cette situation pour aboutir à d'autres
aujourd'hui, complications là? Moi je crois à une seule chose. Tant qu'il n'y a pas une véritable couverture de l'intégrité territoriale nationale par l'État et l'armée nationale, il n'y a aucune garantie pour mettre en œuvre aucun accord. On peut signer, on peut se rencontrer autant de fois qu'on veut. On signe des accords dans un no man's land. Il y a quel mécanisme de garantie ou de mise en œuvre d'un accord? Il y a quelle garantie? Il y a quelle structure pour garantir cela quand il n'y a pas un État qui est là, quand il n'y a pas une armée nationale qui est là pour le garantir?
Ami Beki veut réagir?
Oui, moi je pense que c'est un sérieux problème parce que quand vous essayez de prendre la dernière résolution des Nations Unies, on a bel et bien dit que tous ceux qui poseront des actes qui iront à l'encontre de la paix et du processus doivent être sanctionnés. Jusque-là, on n'a pas entendu et la ministre n'a pas pris ses responsabilités. Il va falloir que quelqu'un s'interpose aujourd'hui quand même entre ces groupes armés et ça ne peut pas être l'État malien de Kidal. Ce problème de gestion entre ces deux groupes armés ne doit pas se poser parce que Kidal ne leur appartient pas. Et moi, je pense que c'est l'autorité républicaine qui est l'État qui doit peut-être poser ce problème. On ne peut pas laisser la gestion de Kidal entre la CMA et la plateforme. Et moi, je pense que cela veut dire que Kidal n'appartient plus à la République, si tel était vraiment le motif de leur combat. Et une République qui crie à distance, qui pleurniche aux yeux du monde et de la communauté internationale. Moi, je pense qu'à partir du moment où les Maliens, dans leur majorité, n'ont pas approuvé cet accord, le gouvernement doit tout simplement se mettre en retrait et rebattre les cartes. Dans le cas échéant, jurer coûte que coûte, mettre l'accord en application, ça va être très très difficile parce qu'il y aura des points inapplicables dans cet accord, malheureusement.
Le studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
la situation à Kidal. C'est le sujet que nous abordons à présent dans le forum de la presse de ce vendredi. Cette question que j'adresse à vous, Youba Konaté, est-ce qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui d'imposer véritablement un cessez-le-feu sur le terrain à Kidal?
Oui, c'est dit que c'était possible, parce que qui va imposer le cessez-le-feu? C'était normalement c'est dans le mandat de l'AMINUSMA. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, nous sommes dans une telle logique que les gens sont même en train d'oublier que l'AMINUSMA est un acteur. Alors que l'AMINUSMA et les Nations Unies, de façon générale, avaient dit très clairement que tout ce qui allait poser des actes contraires à l'application de l'accord allait être sanctionné. Mais jusque-là, on attend quoi pour qu'au moins on donne des directives en termes de sanctions? Et je voudrais revenir sur un point que Diouara a abordé. Ça dit, et je suis d'accord avec lui, la zone fait, comment dirais-je, être au tout cœur de danger d'un certain nombre d'intérêts économiques. Mm-hmm. C'est le trafic d'armes, de drogue, tout le monde le sait. Et les uns et les autres, les acteurs, les différents acteurs qui sont là, sont au courant de ces enjeux-là. Mais il va falloir à un moment donné, puisque la situation du fait qui fait que l'État a perdu le contrôle de Kidal est une donne de la situation. On ne peut pas le nier, c'est un fait. Personne ne peut le nier. Il n'y a pas d'alternative à ça, c'est un fait, il faut le constater. Maintenant, de cette situation-là, comment on peut se comporter? Par exemple, pour ce qui est de la responsabilité de l'État du Mali, c'est la mise en application de l'accord qui, à partir du 15 août, avait prévu, n'est-ce pas, le cantonnement des forces combattantes. Si les combattants sur le terrain aujourd'hui qui font la loi sont cantonnés, c'est le début de solution. Et ce cantonnement-là, dans les différents documents qui ont été signés, paraphés par les différentes parties, est dit clairement que au moment où on cantonne les forces belligérantes, l'État se redéploie. Moi, je pense que jusque-là, on n'est pas allé à la limite de ce processus-là. Il va falloir que les uns et les autres fassent des efforts pour que nous restons dans le cadre de l'accord. Parce que, dès le début, hein, tous les acteurs ont été unanimes là-dessus. L'accord n'est pas parfait, très loin d'être parfait, mais c'est un bon cadre pour qu'on essaie d'aller vers la paix. Et je pense que c'est à cela que nous devrions nous atteler, aller, n'est-ce pas, dans l'application de l'accord. Et tant bien que mal, c'est compliqué, c'est difficile, mais nous pouvons y arriver si les uns et les autres se mettent. Parce qu'entre-temps, je pense que les différents acteurs aujourd'hui ont compris que la dynamique de confrontation ne paye pas. Je crois que vraiment les uns et les autres ont compris que c'est pas la confrontation, la lutte armée qui va régler le problème. Tout le monde en est désormais conscient.
Non, mais moi je pense que aujourd'hui il faut que les forces internationales, la communauté internationale prenne ses responsabilités, parce que elle est censée être garant de cet accord. Donc aujourd'hui, l'AMINUSMA a tous les moyens militaires, matériels et autres de faire une interposition. Une interposition, c'est pas de faire un blocus autour d'un groupe et d'empêcher à un autre d'arriver. Moi, je pense que l'AMINUSMA a les moyens de pouvoir s'interposer dans une cohabitation, que ce soit à Kidal et partout dans la région, entre ces groupes. Et avec ça, le problème est terminé. Mais on va toujours se retrouver à Niamey, à Bamako, après à Nouakchott, après par-ci, par-là, ça ne va rien changer. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et que chacun s'assume.
Une annonce qui s'est retrouvée à la une des journaux, c'est à cela que nous allons nous intéresser à présent. Il s'agit de celle qui concerne la date de l'élection des conseillers communaux. La date prévue, c'est le 20 novembre. Alors, cette énième date sera-t-elle cette fois-ci respectée à MIBC?
Moi, je pense que seul le temps a la réponse à cette question. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, la énième fois que le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga précise qu'il y aura élection. Nous l'avons vu la dernière fois, contre vents et marées, contre même son camp, qui était celui de la majorité, celui de l'opposition. Tout le monde avait dit qu'il ne pouvait pas y avoir élection. Il avait insisté. Et lorsque un ministre dans un pays, et à la face du monde, tient de tels propos et qu'à la fin, il se retourne contre lui, mais moi, je pense que ce n'est pas trop respectueux. À l'allure où vont les choses, on vient tout de suite de parler de cette situation sécuritaire au Mali. je ne pense pas, à mon avis, qu'on puisse organiser des élections tant que le pays n'est pas en paix. Mais la réponse, comme je l'ai dit, ça appartient au temps. De mon point de vue, moi, je pense que ça va être très, très compliqué à tenir.
Youba Konaté ?
Oui, c'est justement ça. C'est-à-dire que par rapport même déjà à la possibilité de tenir ces élections-là le 20 novembre, c'est déjà un problème. Parce que de plus en plus, les gens ne croient même plus à ce que le gouvernement dit. Et entre-temps, il y a un autre problème. C'est que ces élections vont concerner qui ? Quelles sont les régions qui vont être concernées? Tout ça, c'est des détails, parce qu'on ne sait pas, est-ce que les régions dans lesquelles on va installer les autorités intérimaires seront concernées, est-ce qu'elles ne seront pas concernées? Ça, c'est des détails, des informations que nous n'avons pas encore. Puisque entre-temps, il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Parce que des autorités intérimaires ont continué même de faire la campagne pour sensibiliser les gens à les accepter dans les communes. Bon, si entre-temps, il y a une date qui est annoncée pour les élections municipales, dans cette situation de confusion totale, on ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir. Et c'est très compliqué pour un Malien de croire que cette date-là soit tenable, vu vraiment les éléments que nous disposons aujourd'hui. Il faut peut-être le voir pour le croire.
Cheikh Amadou Diouara, les communales, le 20 novembre, il y a des raisons d'y croire, non?
Moi, personnellement, le 20 novembre, ça me paraît utopique. Mais qu'on vous annonce la convocation du collège électoral et tenir les élections à cette date, en est une autre. Mais par contre, moi, je pense qu'ils ont peut-être leur plan. Parce que si c'est prétendu tenir l'élection sur l'étendue du territoire national, je pense que c'est peine perdue. La preuve en est que nous avons été incapables de tenir l'élection partielle juste sur le cercle d'Ansongo avec le cas de Talataï où le gouvernement a dépêché des émissaires, il y a eu des ministres qui ont été déployés et tout, ça n'a absolument rien donné. L'élection, c'est malheureusement, n'a pas pu se tenir partout et nous avons vu les conséquences que ça a donné. Donc, moi je pense que si il sera peut-être question de tenir l'élection là où ça peut se passer sans souci majeur et d'instaurer des autorités intérimaires, ce qui cause un autre problème encore dans certains endroits, à moins que ce ne soit ça. Par contre, je sais que le ministre Meiga est quelqu'un quand même d'assez dévoué quand il annonce des choses et qu'il sait comment il compte aller, mais est-ce que le terrain lui sera favorable, est-ce que ça va lui être permis? Ça, on va voir. Mais quand même, tenir l'élection normalement sur l'étendue du territoire, c'est impossible pour le 20 novembre et même au-delà, dans un court et moyen terme.
Ami BCC, voilà, réagissez avant que je ne pose la prochaine question.
D'accord.
Donc, rapidement.
C'est bien. Moi, je pense que c'est vrai, il est dévoué, le ministre, mais dans son dévouement, rien n'aboutit. Parce que nous l'avons dit, c'est la énième fois qu'il y a ça. Quand vous parlez des élections, moi, je pense que d'abord, le premier aspect, c'est la sécurisation. D'abord du vote, parce que les partis politiques, vous les connaissez très bien. Il y a d'abord la sécurisation des électeurs. Et qui doit faire ça? Moi, je pense que l'armée, aujourd'hui, doit être axée à autre chose qu'à venir superviser des élections là où tout peut venir. C'est-à-dire, c'est occuper l'armée, le dévier de son combat, et là, ça va poser un véritable problème. Sauf si on va organiser les élections sans sécurité, parce que la véritable sécurité aujourd'hui, c'est le terrorisme. La véritable sécurité aujourd'hui, c'est amener la paix, comme vous l'avez dit tout de suite, au niveau de Gao, de Kidal, parce que même au centre, aujourd'hui, ça ne va plus. Au sud, encore, c'est grave. Il l'a dit, et moi, je l'ai dit, je ne suis pas trop convaincu que cela puisse se faire. Malgré son dévouement, il risque de revenir, parce que au sein même de son de ce parti dont il est un grand cadre, ça ne va pas. Nous le savons jusqu'à présent, il n'arrive pas à s'entendre. C'est un problème qui se pose aujourd'hui. Et lui, certains de ses amis mettront des bâtons dans ses roues parce que ça ne les arrangera pas.
Ouais, mais je voudrais préciser qu'au-delà de la personne du ministre, c'est vraiment des réalités de la République qui vont s'imposer. Ce n'est pas sa personne. Hein. Moi, je pense que, quelle que soit sa volonté à lui, c'est la réalité est plus dure.
Youba Konaté, la mise en place des autorités intérimaires à la fin de ce mois, le communal, le 20 novembre, qu'est-ce que ça vous dit? Comment est-ce que vous...
Oui, c'est ce que je disais, Fomba. C'est-à-dire qu'il y a même une situation de confusion. On ne sait pas. Parce que c'est peut-être avec le temps, le gouvernement va éclaircir tout ça, nous dire, voilà, que les régions qui vont être concernées, voilà, celles qui ne seront pas concernées, voilà. Peut-être ces détails-là qui vont nous permettre. Ou alors, aller à des élections avec deux ou trois vitesses.
Je ne pense pas qu'il faut mettre les autorités intérimaires. Je ne pense pas qu'il faut mettre les autorités intérimaires si elles doivent juste faire 2 à 3 mois. Moi, je pense que c'est un autre agenda, comme l'a dit Maïga tout de suite. C'est que là où on mettra les autorités intérimaires, là où on mettra les autorités intérimaires, on ne mettra pas, peut-être pas des élections. Et là, parce que là-bas, la sécurité.
Mais à l'origine, c'est ce qu'on a dit.
Oui, mais bien sûr,
les autorités intérimaires, c'est pour un bout de temps, juste le temps d'organiser.
Oui, mais il y a ce qui est dit et puis il y a ce qui est en train de se faire, parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qui est dit. On a dit que les autorités intérimaires, c'est un peu partout au Mali, là où l'État ne fonctionne pas. C'est là, on est en train de constater que c'est dans les 5 régions du Mali, donc ce n'est pas ce qui a été dit.
Alors, cette question à vous, M. Djouara, c'est 2 événements en un laps de temps d'un peu plus de 2 mois. Est-ce que ça ne pose pas se poser quelques questions par rapport à l'enjeu de l'un comme de l'autre?
Des enjeux majeurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont investis dans les 5 régions du Nord à battre campagne, à se positionner par rapport aux autorités intérimaires. Et je vois mal ces gens tout de suite contribuer à faciliter la tenue d'élections communales pour les remplacer. Donc moi je pense que les gens ont des agendas vraiment sur du long terme, et les autorités intérimaires, il faut qu'on se détrompe. Si les autorités intérimaires s'installent, après le problème serait de pouvoir tenir des élections, de les faire tenir par ces mêmes personnes pour les changer ou pour les faire partir. Ça c'est un autre problème, et ça, on serait parti pour des longs mois, sinon même des années sur cette question.
Peut-être qu'à ce niveau, il va falloir que les gens reviennent aux différentes propositions qui ont été faites. Et désormais, la proposition qui est sur la table, c'est celle de Soumerou Boubeï Maïga, qui, entre-temps, je rappelle, fait partie de la majorité présidentielle, il l'a dit clairement. Il en appelle à la tenue de concertations nationales pour qu'on puisse sortir. On appelle tout le monde, que les gens viennent, qu'on discute, on dise, voilà, sur ce point, voilà ce qu'on a arrêté. Le peuple malien, souverain, voilà, deuxième point, voilà, que les gens arrêtent ça. Et qu'il faut qu'à un moment donné, les autorités acceptent que tout le monde vienne discuter, on dit, voilà, les points qu'on a arrêtés et qu'on... On trouve une formule pour annexer ça, n'est-ce pas, l'accord et autres, et on commence à appliquer ça. Sans concertation nationale, ça va être très compliqué, parce qu'entre-temps, il y a d'autres problèmes plus sous-jacents, plus compliqués que tout ça. Et dans la mise en œuvre de l'accord, ça va être d'énormes problèmes, et je pense qu'on n'a même pas commencé d'abord.
Moi, je pense que c'est un aspect qui n'arrange pas trop les groupes armés, que ce soit la CMA ou bien la plateforme, parce qu'on l'a dit... Lorsque l'accord est signé, une fois que l'accord est signé, s'il y a des amendements, s'il y a des changements, il va falloir que les 3 parties soient d'accord. Et si dans la concertation nationale, là, il y a des points qui n'arrangent pas les groupes armés, c'est sûr et certain, ils ne l'accepteront pas.
Mais cette concertation nationale, elle est nationale.
Elle est nationale.
C'est le peuple, c'est souverain.
Souverain, voilà.
Ça a l'air d'une constitution.
Voilà.
C'est pas avec le peuple qu'on a signé, on a signé avec les groupes armés.
Non, 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 ce n'est pas pour remettre en cause la signature, le processus d'Alger. Non, 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 pas du tout. Mais que d'abord, le peuple, de façon générale, le peuple souverain du Mali, ait un regard sur la mise en application de l'accord. Parce que nous avons signé l'accord, tout le monde a dit.
Et non, en aval, quand même.
Ah oui, c'était mieux, mais on peut toujours le faire.
Le président a dit
qu'on... Amibé, vous contestez donc bien fondé, en fait, de ce...
Non, en réalité, moi, je pense que c'est que...
Non, c'était idéal. L'idéal était de le faire avant.
Bon, comme tel n'a pas été le cas, ça va être très difficile, parce que c'est dans l'accord. Si on doit respecter l'accord, c'est un des articles qui le dit. S'il doit y avoir un seul changement après avoir signé l'accord, il faut que les parties signataires soient d'accord. Et si ça n'arrange pas la CMA, si ça n'arrange pas le gouvernement, ça va être difficile. Et comme on le dit,
on peut apporter des choses à l'accord sans le violer. Il y a des amendements, des fenêtres sont restées ouvertes.
Pourvu que ça arrange tout le monde, et c'est ce qui m'étonne. Un point ne peut pas arranger tout le monde.
Quand on a la volonté de se comprendre, on peut faire des concessions.
La bonne foi des autres, c'est ça le problème.
Parce qu'entre temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler.
Monsieur Fomba, je dis bonsoir à tous ceux qui m'écoutent à partir de Tombouctou, c'est chez moi, parce qu'il me m'empêche de le faire.
Je crois que ça se comprend. Entre journalistes, la question apparemment est compliquée, et un autre jour certainement nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est la fin du forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avons évoqué 2 sujets, la situation sécuritaire au Mali et l'annonce de la date du 20 novembre pour l'élection communale. On prépare au débat 3 journalistes. Il s'agit d'Ami Bessissé, le directeur de publication du Figaro du Mali, Youba Konaté du Zenith Balé, le Cheikh Amadou Djouara, qui est journaliste indépendant. À la mise en onde, il y avait Sedumbo, Régis Vidéo, Gagné Kanté, réalisation Ousmane Diadjé et Touré, et à la présentation Seydou Fomba. Nous vous souhaitons bon week-end. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Moundé.
Chenne Berry. Siki Kafoba.